de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Camp de réfugiés en faux, le premier ministre grec tient une réunion d'urgence. L'ASEAN confirme le règlement non militaire du différend LCS. ACDH souligne la menace aux journalistes féministes et défenseuses des droits de l'homme au Pakistan. Le sommet de l'ASEAN s'est déroulé au milieu de fictions entre les États-Unis et la Chine. Difficile à retirer, l'Indonésie a proposé un arrangement pour l'utilisation du veto du CSNU. Les autorités fiscales indonésiennes et australiennes acceptent d'échanger des informations fiscales et l'Indonésie invite l'ASEAN à lutter ensemble contre le COVID-19. Mon cher Solitar, voici les nouvelles en complet. Camp de réfugiés en feu, le premier ministre grec tient une réunion d'urgence. Un incendie s'est déclaré mercredi dans un camp de réfugiés surpeuplé sur l'île grecque de Lesbos. Les incendies ont forcé des milliards de citoyens à fuir au milieu d'un confinement lié à la pandémie de COVID-19. Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a immédiatement convoqué les ministres pour une réunion d'urgence. Selon les pompiers, le feu a commencé à apparaître dans le camp appelé Moria après mardi soir, 8 septembre. Mercredi matin, de vastes zones du camp avaient brûlé avec la fumée des tentes et des abris qui avaient pris feu, alors qu'un certain nombre de personnes commençaient à chercher leurs effets personnels. La vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a tweeté après s'être entretenue avec Mitsotakis que l'Union européenne s'est déclarée prête à aider la Grèce dans ce qu'elle a qualifié de temps difficile. La cause des flammes est encore inconnue. Cependant, les autorités recherchent actuellement s'il existe un élément d'intention. L'ASEAN confirme le règlement non militaire du différend LCS. Le Vietnam, qui a assumé la présidence de l'ASEAN 2020, a souligné que l'ASEAN ne résoudra les différends concernant la mer de Chine méridionale, LCS, que de manière pacifique et sans déployer de forces militaires. Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, dans son discours d'ouverture de la 53e réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, mercredi, a déclaré qu'il y avait toujours une menace pour la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté des routes maritimes et aériennes dans LCS. Il a déclaré que l'ASEAN adhérait à ses principes à savoir mettre l'accent sur la maîtrise de soi, le règlement pacifique de tous les différends fondés sur le droit international, y compris l'UNCLOS de 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Intensifier le dialogue, renforcer la confiance non militaire et se retenir pour éviter qu'une situation plus compliquée ne se produise pas. Le LCS est une voie navigable importante à des fins régionales et internationales. Un certain nombre de pays de l'ASEAN et de la Chine qui se chevauchent revendiquent des zones dans ces eaux comme faisant partie de leur territoire. ACDH souligne la menace aux journalistes féministes et défenseuses des droits de l'homme au Pakistan. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, a souligné un certain nombre de menaces de violence ou de meurtre contre les femmes féminicides, en particulier celles qui travaillent comme journalistes et défenseurs des droits humains. Cela a été dit par le porte-parole du ACDH, Rupert Colville, comme diffusé par la page officielle de l'ONU mercredi 8 septembre. Sur la base de la surveillance du ACDH, de nombreuses femmes qui travaillent comme journalistes des défenseuses des droits de l'homme au Pakistan ont été accusées de blasphème par un certain nombre de personnes, simplement parce qu'elles ont critiqué le gouvernement. Colville, lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU à Genève, en Suisse, a déclaré que l'accusation de blasphème les rendait vulnérables à la violence et même à d'autres actes ayant entraîné la mort. Le sommet de l'ASEAN s'est déroulé au milieu de frictions entre les États-Unis et la Chine. Les ministres des Affaires étrangères, membres de l'ASEAN, ont commencé mercredi une série de sommets régionaux au milieu de frictions entre les deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Le sommet devrait rechercher une collaboration pour contrer les menaces mondiales et essayer de réduire les représailles entre les deux pays ayant les plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine, qui se disputent leur influence. La Russie, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde, figurés parmi les pays, participent à distance au sommet organisé par le Vietnam. Le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, dans son discours d'ouverture au sommet de l'ASEAN, a déclaré que la situation géopolitique et géoéconomique de la région, y compris la mer de Chine méridionale, connaît une volatilité accrue qui dérange la paix et la stabilité. Pendant ce temps, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a averti les États-Unis et la Chine de ne pas impliquer les pays d'Asie du Sud-Est dans leur bataille géopolitique. Difficile à retirer, l'Indonésie a proposé un arrangement pour l'utilisation du veto du CSNU. L'Indonésie propose de réglementer l'utilisation des droits de veto au Conseil de sécurité de l'ONU plutôt que le discours d'abolition des droits détenus par les cinq pays, à savoir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Selon le directeur général de la coopération multilatérale au ministère des Affaires étrangères, Febrian Arudyar, l'abolition du droit de veto est jugée irréaliste car elle modifiera le contenu de la Charte des Nations Unies, dont les amendements doivent être basés sur l'accord et la ratification des 5 pays du P5. Cela a été dit par Fabrien à Rudyard lors d'un séminaire sur la présidence indonésienne au Conseil de sécurité de l'ONU, comme l'a rapporté mercredi Antara. Dans ce cas, l'interdiction du droit de veto peut être passible d'infractions graves comme génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et agression. Le représentant permanent de la République d'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, Dian Triansyahjani, a expliqué que cette question préoccupe également la France et le Mexique, qui ont mis en avant l'initiative de ne pas utiliser les droits de veto pour les questions de génocide et de crimes contre l'humanité. Les autorités fiscales indonésiennes et australiennes acceptent d'échanger des informations fiscales. La Direction générale des impôts (DGT), le ministère des Finances et l'Australian Taxation Office (ATO) approuvent l'échange automatique d'informations sur la preuve de retenue d'impôt sur le revenu (AER on Withholding Tax). Un communiqué de la DGT reçu mercredi par l'agence de presse Antara Jakarta a déclaré que cet engagement faisait partie des dispositions sur la mise en œuvre de l'article sur l'échange d'informations dans l'accord de non-double imposition, P3B, entre l'Indonésie et l'Australie. La signature de ce protocole d'accord a eu lieu séparément à Jakarta mardi 11 août 2020 et en Australie mercredi 19 août 2020 et prend effet à compter du jour de la signature de la coopération. Ce protocole d'accord devient la base légale pour l'échange d'informations sur la retenue d'impôt sur les revenus payés aux contribuables indonésiens par les assujettis australiens ou vice-versa chaque année. Par le biais du protocole d'accord, la DGT recevra des informations relatives aux revenus gagnés par les contribuables indonésiens par des assujettis fiscaux australiens. L'Indonésie invite l'ASEAN à lutter ensemble contre le COVID-19. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a invité les pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, à lutter conjointement contre la pandémie du COVID-19, dont les impacts sanitaires et socio-économiques sont loin d'être terminés. Cela a été exprimé par la ministre des Affaires étrangères, Retno, lors du 53e sommet des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, qui s'est déroulé virtuellement mercredi. L'Indonésie choisit de travailler ensemble. L'Indonésie a déclaré que le mandat des dirigeants de l'ASEAN était très clair, à savoir penser et agir en tant que communauté, de sorte que la tâche des ministres était de s'acquitter de ce mandat. Elle a ajouté que pour le secteur de la santé, l'Indonésie a souligné la nécessité d'une coopération dans la fabrication des vaccins dans la région, notamment par le biais du Centre de recherche sur l'industrie pharmaceutique et sanitaire de l'ASEAN et le renforcement de la résilience sanitaire régionale. L'Indonésie a également souligné que la coopération économique et la revitalisation des activités économiques doivent être lancées tout en adhérant au protocole sanitaire. S'agissant de la revitalisation de l'activité économique, l'Indonésie a soulevé la question du couloir de voyage de l'ASEAN. Dans ce contexte, l'Indonésie a soumis son premier projet concernant le couloir de voyage de l'ASEAN, qui a jusqu'à présent été soutenu par les pays membres de l'ASEAN. En cas d'accord, l'aménagement du corridor de voyage permettra aux acteurs commerciaux ainsi qu'aux fonctionnaires et diplomates de pouvoir voyager et mener des activités économiques dans la région. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Maintenir la neutralité de l'appareil civil de l'État dans le Pilkada simultanément 2020 ». L'une des questions les plus cruciales dans la mise en œuvre des élections à la tête des régions ou Pilkada qui se tiendront simultanément dans 270 régions le 9 décembre 2020 est de savoir comment maintenir la neutralité de l'appareil civil de l'État ou ASN. La clé du succès de la tenue des élections régionales de 2020 dépend non seulement de la participation des communautés, mais aussi de la neutralité de l'ASN. L'obligation de neutralité de l'ASN est régie par la loi numéro 5 de 2014. L'article 70, alinéa 1 de la loi dispose que l'ASN en piquet dans la campagne pour un couple de candidats peut être condamné à 6 mois de prison. Sur la base des données de la commission de l'ASN, jusqu'à août 2020, il y avait 499 rapports de prétendue non-neutralité de l'ASN. Enquêté plus loin, il a été prouvé que 389 ASN avaient violé la neutralité. Les types de violations de la neutralité commises à l'appareil civil de l'État ou ASN consistent à donner le soutien aux candidats potentiels sur les réseaux sociaux et les médias de masse, à participer à la socialisation des candidats potentiels via des accessoires de campagne, assister à des activités qui profitent à un candidat potentiel, se déclarer candidat à la tête de région, inviter ou intimider le public à soutenir l'un des candidats. La neutralité de l'ASN est très importante pour éviter les blocages et les conflits d'intérêts et pour garantir la bureaucratie comme ciment de l'unité nationale dans le cadre de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Ainsi, la neutralité doit être maintenue et supervisée afin que l'événement d'élection des chefs régionaux puisse se dérouler honnêtement et équitablement entre les candidats qui ont le pouvoir et les candidats qui n'ont pas de relations de pouvoir au sein de la bureaucratie gouvernementale. Pour maintenir la neutralité de l'ASN, le ministère de la Réforme administrative et bureaucratique, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, l'Agence de la fonction publique de l'État, la Commission de l'appareil civil de l'État et l'Agence générale de surveillance des élections, ont élaboré un décret conjoint au SKB sur les lignes directrices pour le suivi de la neutralité de l'appareil civil d'État ou ASN dans la mise en œuvre des élections régionales simultanées en 2020. La signature du décret conjoint de neutralité a eu lieu le 10 septembre 2020 au ministère de la Réforme administrative et bureaucratique, Jakarta. La stipulation du décret conjoint sert de fil conducteur aux agences gouvernementales pour maintenir la neutralité de l'ASN, notamment dans la tenue des élections régionales simultanées en 2020. Par ailleurs, créer des synergies, accroître l'efficacité et l'efficience du contrôle de la neutralité de l'ASN et créer une sécurité juridique pour traiter les violations du principe de neutralité de l'ASN. On espère bien entendu que les violations de la neutralité de l'ASN ne se reproduiront plus ou du moins pourront être minimisées au minimum lors des élections régionales de 2020 grâce à la collaboration de supervision synergique entre le ministère de la Réforme administrative et bureaucratique, le ministère de l'Intérieur, l'Agence de la fonction publique de l'État, la Commission de l'appareil civil de l'État et le Conseil de surveillance des élections générales. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Thank you.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. On commence avec l'événement du 10 septembre 1912. Sarekat Dagang Islamia, sous la direction de Cokroaminoto, a changé son nom en Sarekat Islam. L'organisation de Sarekat Dagang Islam, SDI, était là à l'origine une association de commerçants islamiques. Cette organisation a été créée par Haji Samanhudi à Surakarta le 16 octobre 1905, dont le but initial était de rassembler les commerçants musulmans indigènes, en particulier les commerçants de batik, afin qu'ils puissent rivaliser avec les grands commerçants chinois. Le 10 septembre 1912, on a changé le nom de SDI en Sarekat Islam, sous la direction de Haji Umar Said Cokroaminoto. On l'a fait pour que l'organisation ne soit pas seulement engagée dans l'économie, mais aussi dans d'autres domaines comme la politique. Sarami, on continue avec l'événement du 10 septembre 1945. On a fondé l'Agence marine de sécurité du peuple en tant que précurseur de la marine indonésienne. L'Agence de sécurité du peuple, Badan Keamanan Rakyat, ou bien BKR, est une agence qui assure la sécurité avec le peuple et les agences d'État. Le BKR a été formé par le comité préparatoire pour l'indépendance de l'Indonésie. Les marins vétérans Konin Lik Marine ou bien Marine néerlandaise et Kaigun Marine impériale japonaise ont pris l'initiative de maintenir l'ordre et la sécurité dans chaque port en établissant le BKR Marine le 10 septembre 1945. Chers amis, on termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 septembre 1974. La Guinée-Bissau est devenue indépendante du Portugal. La Guinée-Bissau fait partie du royaume de Kabou, qui fait partie de l'Empire du Mali en Afrique de l'Ouest. Une partie de cet empire a duré jusqu'au XVIIIe siècle. Et plusieurs autres parties faisaient partie de l'Empire portugais. Plus tard, la Guinée-Bissau est devenue une partie de la colonie portugaise guinéenne du Portugal au XIXe siècle. Elle déclarait son indépendance le 24 septembre 1973, puis on l'a admis le 10 septembre 1974. Son nom de sa capitale, Bissau, on l'a ajouté au nom du pays pour éviter de nommer la Guinée voisine. Puis le nom du pays est devenu la République de Guinée-Bissau. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Adakah engkau mendengar lagu rindu yang kutulis untukmu? Betapa jarak waktu memaksa kita memaknai sebuah kata rindu. Adakah engkau mendengar doa-doaku di ruang batinmu? Menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali. Ka dan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu. Pada pemilik jiwa, karena ku yakin dia akan menjaga asa yang aku tinggalkan pada lingkar janji kehormatanmu. Oh, karena aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu. Karena aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu. Bila kau menunggu
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter Mon Indonésie. Intitulé « Il y a encore des régions qui n'ont pas mis en œuvre la réglementation sur la réduction du plastique », a déclaré ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts, KLHK. Chers amis, bien que des politiques sur les restrictions en matière de plastique à usage unique aient été publiées dans plusieurs régions, il existe des gouvernements locaux qui n'ont pas pleinement mis en œuvre le règlement. C'est ce qu'a déclaré le chef de la sous-direction des marchandises et de l'emballage du ministère de l'Environnement et des Forêts, Ujang Solihin Siddiq, lors d'une discussion virtuelle sur un forum sans plastique organisé par le mouvement indonésien pour la diète des sacs en plastique. A rapporté Antara mardi, 8 septembre, des politiques de restriction du plastique à usage unique ont été publiées dans 2 provinces et 35 districts ou villes. Selon Ujang Solihin Siddiq, sur les 37 régions, il y a des villes ou des régions qui ne font que suivre les règles, sans aucune mise en œuvre. À cet égard, Ujang a encouragé les organisations non gouvernementales engagés dans le secteur de l'environnement à surveiller et à évaluer l'efficacité de la mise en œuvre de la politique et à vérifier les données relatives aux déchets plastiques. Les résultats montreront quelles régions ont mis en œuvre avec succès des politiques de réduction des plastiques à usage unique et quelles régions n'ont adopté que des réglementations sans mise en œuvre réelle. Ceci est important car les données sont une mesure de la performance réussie de la réduction des déchets plastiques avec cette politique de réduction. Ces données sur la réduction des déchets contribueront directement à l'objectif de réduction des déchets dans le cadre de JAKSTRADA, politique et stratégie régionale de gestion des déchets ménagers et des déchets de type ménager dans chaque ville. Oudjang Solin Sidik a souligné l'importance de ces données car elles affecteront l'objectif de 30% de réduction des déchets nationaux d'ici 2025. Selon Oudjang, les données vérifiées serviront également de base au ministère de l'Environnement et des Forêts pour recommander les régions qui reçoivent des fonds d'incitation régionaux. Bon, cher Jolitar, c'est tout, mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Seperti kau
plus tard, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonjour chers amis, vous écoutez La Voix de l'Indonésie à Jakarta et voici le magazine culturel. Pour présenter les beautés de divers sites touristiques en Indonésie, des plages, des montagnes, des cascades, des traditions, des repas typiques, des forêts, des parcs naturels et des lacs. Vous êtes avec moi Audrey. Cette fois, nous allons vous présenter le repas typique Tuli Tuli. Chers auditeurs, les habitants Buton de sud-est de Sulawesi ont l'habitude de consommer du manioc transformé, du maïs comme aliment de base et bien sûr du poisson frais. La plupart des repas Buton sont préparés simplement à partir de la sélection des ingrédients comme cuisinés jusqu'à ce que la présentation ne soit pas si compliquée. De nombreuses spécialités de Buton sont à base de manioc, l'andeu et Tuli Tuli. Cet aliment frit en forme de oui est un aliment préféré des habitants de l'île de Buton car il a un goût délicieux et non acide. L'ingrédient principal est le manioc avec l'ajout d'échalotes et de sel. Tuli Tuli est généralement servi avec une sauce chili. La présentation varie également, certains le servent séparément avec la sauce chili. Certains sont immédiatement mélangés avec la sauce chili. Cela dépend du goût de chacun. Chers amis, pour faire ce Tuli Tuli frit, tout d'abord du manioc râpé. Après cela, la pâte de manioc est pressée fermement pour que l'eau sorte jusqu'à ce qu'elle sèche. La manioc sèche est ensuite divisée en deux parties. La première partie est mélangée avec suffisamment d'eau, des tranches d'échalotes et du sel continuent à être chauffées jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte épaisse. Après cela, la pâte est mélangée avec une partie du manioc sec râpé qui est toujours là. Lorsque la pâte est mélangée, prenez juste un petit cercle et faites un cercle long et étroit. Puis juste formez comme le nombre 8. Ensuite, le cercle en forme de 8 est frit dans suffisamment d'huile. Chers amis, Tuli Tuli a un goût délicieux lorsqu'il est consommé. Ce plat aura un goût plus délicieux lorsqu'il sera mangé tout en le trempant dans la sauce chili. Les habitants de l'île de Buton préfèrent profiter des Tuli Tuli le soir et la nuit. Pour cette raison, les nouveaux vendeurs Tuli Tuli vendront leurs marchandises en fin d'après-midi jusqu'au soir. Sur l'île Buton, il n'est pas difficile de trouver Tuli Tuli. Cet aliment frit est également couramment vendu en conjonction avec d'autres aliments frits comme les bananes frites, les patates douces frites et les fruits à pain frites. Les prix Tuli Tuli sont tout à fait abordables, autour de 1 à 2500 de roupias par pièce. Chers auditeurs, c'est tout le magazine culturel.
terlihat jelas di matamu. Tak bisa kau mengerti aku. Ada banyak wajah cerita. Kau bisa pilih semaumu. Yang melihat hanyalah mataku sendiri. Yang mendengar hanya kupingku. Yang merasa hanyalah kedua tangan ini. Yang mengerti hanya hatiku. Hanya hatiku. Oh, oh. Hanya hatiku. Mati satu tumbuh seribu. Kata-katamu seperti debu. Ada banyak wajah cerita. Ku kan memilih yang ku mau. Yang melihat hanyalah mataku sendiri. Yang mendengar hanya kupingku. Yang merasa hanyalah kedua tangan ini. Yang mengerti hanya hatiku. Gelas penuhmu, oh, oh, takkan terisi. Yang melihat hanyalah mataku sendiri. Yang mendengar hanya kupingku. Yang merasa hanyalah kedua tangan ini. Yang mengerti hanya hatiku. Hanya hatiku. Bicaralah yang kau mau. Hanya hatiku. Ini hidup. Bicaralah yang kau mau. Ini hidupku. Bicaralah yang kau mau. Ini hidupmu.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois, vous allez écouter l'information sur Stunta 10 Pindad, destructeur de déchets sans fumée. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Chers amis, le 3 septembre dernier, le gouverneur de Java occidental Ridwan Kamil a lancé Stunta 10 Pindad, un produit d'élimination des déchets respectueux de l'environnement créé par les enfants de la nation Opakwan Building Bandung. Stungta dit Spindad est une solution pour gérer les problèmes de déchets en utilisant la technologie des incinérateurs sans fumée. Une machine à brûler les déchets qui adopte une technologie écologique et économe en énergie. Harry Swan, directeur commercial des produits industriels de Spindad SA, a déclaré que Stungta dit Spindad est une solution innovante et bénéfique pour l'environnement et prête à être produite en masse. Harry Swan a en outre déclaré que la présence de ce produit peut améliorer la qualité de l'environnement, le développement social et la santé, en particulier dans les conditions actuelles de la pandémie COVID-19. Chers auditeurs, on prétend que Stungta est un incinérateur respectueux de l'environnement qui ne produit pas de fumée ni d'autres substances nocives, car il a passé avec succès la combustion à double brûleur, le filtre et le traitement de la fumée. Le système de réchaud est censé être efficace dans l'utilisation du combustible. Le brûlage des ordures peut être effectué en continu car il n'utilise pas le système d'ouverture de la porte de la chambre de combustion comme les autres produits d'incinération qui nécessitent que le brûleur soit atteint avant d'ajouter de nouveaux déchets. La température de combustion de Stungta varie de 800 à 1200 degrés Celsius, ce qui est censé être capable de détruire tous les types de déchets secs et humides. Le résultat de la combustion est dominé par les 5% restants du volume initial de déchets. Stungta a également un design compact de petite taille et est facile à déplacer car il dispose d'une source d'alimentation indépendante. Chers amis, Stungta dit Spindad est le résultat d'une coopération entre Spindad SA avec Top Techno Indo SA, Hejo Techno. Spindad et Hejo Techno ont commencé la coopération de production, Stungta en signant le protocole d'accord le 26 juillet 2020. Coopération liée à la production conjointe, aux activités de certification et à d'autres activités commerciales. Le produit vise à être transformateur de résidus de déchets, à savoir la sélection des déchets qui ne peuvent pas être réutilisés. Serge Littard, c'est tout la rubrique L'Indonésie en couleur pour ce soir, intitulée Stungta dit Spindad, destructeur de déchets sans fumée. Merci beaucoup de votre attention et au revoir.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada
yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt vous allez écouter le magazine musical. Vous êtes avec moi Audrey. Cette édition va vous présenter une chanson intitulée Yang Terbaik Bagimu. Cette chanson a été chantée par Ada Ben, un groupe indonésien avec une jeune chanteuse talentueuse, Gita Gutawa. La chanson Yang Terbaik Bagimu signifie le meilleur pour toi. Décrit l'amour et le désir d'un enfant pour son père décédé. Elle a prié Dieu de lui dire combien elle aimait son père. C'est pourquoi il veut être le meilleur. La chanson créée par Krishana Balagita est incluse dans le 6e album de musique d'Ada Ben sorti en 2004. Bon, chers auditeurs, voici Ada Ben et Gita Gutawa, dont la chanson est intitulée Yang Terbaik Bagimu. Bonne écoute.
Teringat masa kecilku, kapeluk dan kemanja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu.
Waktuku beranjak dewasa, jangan sampai mama.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!